So the first witness is Mr. Geoffrey Goens, who is a specialist in communication and attached to the University of Liège. As it has been said, he will speak in French.
Merci. Donc je vais, quant à moi, si vous le voulez bien, revenir sur les liens particulièrement étroits entre l'administration Bush, mais plus particulièrement le PNAC, puisque c'est lui qui nous occupe aujourd'hui, et ce que je nomme évidemment à la suite d'autres, le nouveau complexe militaro-industriel. Je n'aurai probablement pas le temps dans les 30 minutes qui me sont imparties d'expliquer tous ces liens avec ces différents sous-secteurs du complexe militaro-industriel que sont le complexe énergétique, les sociétés de télécommunications, l'électronique, dont l'électronique de défense, et bien entendu l'industrie de l'armement au sens le plus strict du terme. Mais je me focaliserai donc principalement sur les liens entre le PNAC et donc l'industrie de la défense au sens le plus restreint, en expliquant ensuite évidemment quels sont les effets dans le dossier irakien et quels sont les intérêts que les industriels de l'armement nord-américains ainsi que les industries énergétiques, au premier rang desquelles les compagnies pétrolières, tirent de cette intervention militaire et de cette néocolonisation. Alors, je vais, c'est là l'essentiel de l'exposé qui est normalement, si je puis dire, introduit par de longues considérations sur ce que j'appelle la militarisation croissante de l'économie, à savoir cet ensemble de mécanismes et de logiques qui aboutissent à l'investissement massif des intérêts industriels divers dans des opérations militaires. À nouveau, c'est impossible ici de résumer ces quatre pages en 30 minutes, donc je vais me focaliser sur les noms, les principales personnes qui sont soit le PNAC, administrateurs, des membres associés, ou d'autres personnalités qui ont régulièrement signé des lettres ou des rapports dirigés et rédigés évidemment par le PNAC. Je m'excuse d'avance pour cet amas de noms et cette addition de liaisons qui peut paraître rébarbative, mais il me semble que ce long travail, cette accumulation de faits est indispensable pour bien comprendre le PNAC, le dossier qui nous occupe, et les enjeux. Je pense que cette intervention devrait peut-être, en tout cas je l'espère, répondre à, en tout cas, la quatrième question qui a été posée par la Commission, à savoir précisément de déterminer les acteurs qui, en coulisses, dirige le PNAC et qui donc sont à l'origine de cette intervention militaire en Irak. Alors je pense qu'il y a un nom évidemment qui revient sans cesse lorsque l'on parle du PNAC, qui par ailleurs se retrouve dans différents dossiers qui occupent la stratégie de politique extérieure des États-Unis, c'est celui de Bruce Jackson. Je commencerai donc par lui parce que il me semble être particulièrement significatif donc des liens étroits PNAC et le complexe militaro-industriel, mais parce qu'il est l'un des quatre directeurs exécutifs, si l'on veut, au quotidien, l'un des responsables. Alors, il faut préciser tout d'abord que Bruce Jackson est véritablement, je dirais, au croisement de différentes officines de ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial, de différentes institutions ou think tanks, boîtes à idées, qui déterminent de façon tout à fait évidente, la politique étrangère des États-Unis. Il est tout d'abord le président et à l'origine du comité on NATO, c'est-à-dire comité donc de l'OTAN, qui est une organisation qui a pour but de défendre, bien entendu, l'organisation du traité Atlantique Nord, et plus encore de défendre les stratégies d'expansion de l'OTAN. Je préciserai que c'est quelqu'un, évidemment, qui a avec les administrations, le pouvoir politique américain, puisqu'il a été officier en charge de l'intelligence militaire pour l'armée des États-Unis entre 1979 et 1990, et il a été membre du cabinet du secrétaire à la défense entre 1986 et 1990. Là où c'est évidemment très intéressant, c'est lorsque l'on sait que Bruce Jackson, qui, ayant quitté ses mandats dans le monde politique, passera, comme de nombreux dirigeants politiques, dans le monde des affaires, et il deviendra le directeur de Martin Marietta, Martin Marietta qui fusionnera plus tard avec Lockheed pour donner l'industriel de l'armement Lockheed Martin. Il sera notamment en 1995 chargé de l'analyse des stratégies de l'entreprise pour le secteur de la défense et de l'acquisition des marchés aéronautiques. Il est également directeur du développement global, qui est un poste particulièrement stratégique de Lockheed Martin dès 1999, et il devient vice-président de la société, vice-président exécutif, en 1999. Précisons encore, concernant Bruce Jackson, qu'il a été plus exactement en 1996, ainsi qu'en 2000, l'un des délégués à la Convention nationale républicaine. Alors, pour revenir sur le dossier qui nous occupe, sur le dossier irakien, il faut savoir qu'il est aussi l'un des fondateurs, l'une des personnalités importantes à l'origine de la création du Project on Transitional Democracies, qui est à nouveau une sous-filiale donc de ce comité OTAN, chargé donc de l'expansion des activités de l'OTAN, mais qu'il est également à l'origine de la commission pour la libération de l'Irak. Comité pour la libération de l'Irak, au sein duquel on retrouve d'autres personnalités qui, elles aussi, entretiennent des liens particulièrement étroits avec le complexe militaro-industriel. Je cite entre autres George Shultz, qui a été secrétaire d'État sous l'administration Reagan et qui a été depuis administrateur de Bechtel et de Gulfstream Aerospace, Richard Perl, bien entendu, ou encore James Woolsey, qui a été directeur de la CIA. Enfin, on précisera à toute fin utile, et ce n'est pas tout à fait étranger au sujet qui nous occupe aujourd'hui, qu'il est également, donc Bruce Jackson, l'un réalité proche du groupe de Vilnius, donc ce groupe regroupant 10 chefs d'État, 10 chefs de gouvernement qui étaient favorables à l'intervention en Irak, dont de nombreux chefs de gouvernement, bien entendu, d'État de l'ancien bloc de l'Est. Alors, rapidement, le profil des deux autres directeurs exécutifs du PNAC, Lewis Lerman, qui a été en son temps partenaire d'Arbusto Energy. Arbusto Energy était la firme pétrolière de la famille Bush. Et Randy Schoeneman, qui a été le fondateur et président du comité pour la libération de l'Irak, qui est consultant au cabinet du secrétaire à la défense pour la politique irakienne, et qui, entre autres, a été président d'une société de lobbying qui s'intitule Mercury Group, qui avait pour client BP américain, donc la filiale nord-américaine de la compagnie pétrolière britannique, dont le gouvernement, rappelons-le, était quand même favorable à cette intervention militaire, et Mercury Group, qui avait également pour client Lockheed Martin, à nouveau cet industriel de l'armement. Voilà donc pour les liens très étroits qui unissent la direction exécutive donc du PNAC avec le complexe militaro-industriel. Je continue maintenant avec des personnalités qui sont probablement plus connues du grand public, qui n'entretiennent pas moins des liens étroits avec le complexe militaro-industriel nord-américain, à savoir les membres associés et administrateurs du PNAC. Alors, je commencerai tout d'abord par William Bennett. William Bennett a été plus exactement secrétaire des États-Unis à l'éducation, mais il est surtout l'un des membres d'un autre think tank que l'on qualifie généralement de néoconservateur, qui s'intitule Empower America, qui est situé au cœur de Washington DC et qui représente véritablement l'aile la plus dure, la plus droitière, la plus radicale, c'est selon, du Parti républicain. Véritable machine de guerre idéologique qui ne se préoccupe pas d'abord et avant tout de politique étrangère, mais de la politique intérieure des États-Unis en matière sociale ou en matière d'éducation, en matière également d'idéologie ou d'endoctrinement plus exactement. Et l'on retrouve parmi les membres de ce think tank particulièrement influent, Jane Kirkpatrick, qui est bien connue, je pense, aujourd'hui du grand public, pour être régulièrement présentée comme la prêtresse des républicains et des conservateurs aux États-Unis. On précisera également que l'on trouve à nouveau parmi The Think Tanks une autre personnalité, elle aussi particulièrement introduite dans les milieux de l'industrie de la défense, en l'occurrence Floyd Vam, qui a été vice-président exécutif d'Apple, compagnie évidemment de l'informatique, mais qui, comme d'autres compagnies des nouvelles technologies, ont investi le secteur de l'industrie de la défense, et qui est aussi administrateur de nombreuses compagnies actif dans le secteur des semi-conducteurs, sous-secteur, s'il en est particulièrement important, du complexe militaro-industriel. Je continue donc la liste des membres donc, du PNAC. Jeb Bush, qui est le frère de George Bush Jr. Là, je pense qu'il... Je vais aller rapidement parce que je pense qu'il est assez entendu aujourd'hui des liens qui unissent la famille de George Bush avec les intérêts pétroliers. Je rappellerai simplement que la compagnie Arbusto, compagnie pétrolière de la famille Bush, fusionnera donc en 1984 avec Spectrum 7, qui était aussi une compagnie pétrolière, sans grand succès, mais peu importe. Cette société sera rachetée par Arken Energy en 1986, et George Bush Jr. entrera au conseil d'administration de cette société. Inutile également de revenir sur les liens entre Kenneth Lay, le patron d'Enron, et George Bush. Autre personnalité influente, s'il en est, de l'administration actuelle, Dick Cheney. Là, à nouveau, on a un peu parlé dans la presse des liens entre Dick Cheney et Halliburton, dont il sera président entre 1995 et sa nomination au poste de vice-président des États-Unis. Halliburton, je rappelle brièvement, est une société texane active dans les services spécialisés pour l'exploration et la production de gaz et de produits pétroliers. Rappelons également, concernant Dick Cheney, que son épouse, Lynn Cheney, a longtemps été administratrice de Lockheed Martin, à nouveau cet industriel de l'armement, entre 1994 et 2001. Donc 7 ans dans un conseil d'administration, c'est déjà pas mal, et ça permet bien entendu de nouer des liens pour le moins étroits. Autre personnalité importante aussi dans la mesure où cette intervention évidemment accompagnée aux États-Unis et dans certains médias européens, par toute une stratégie, exactement pour un ensemble de stratégies de propagande et d'endoctrinement visant à précisément nier les enjeux économiques et géostratégiques de cette guerre. Et donc, vous retrouvez au PNAC Steve Forbes, qui est l'une des premières fortunes privées du pays et qui est le président, évidemment, donc, de ce groupe de presse spécialisé dans l'information économique et financière, Forbes Incorporated. Précisons également que Steve Forbes a été des années durant l'un des administrateurs et même président, si je ne me trompe, du holding chapeautant Radio Free America, à savoir cet ensemble de radios actifs dans les pays de l'Est et ailleurs, propageant d'une certaine façon la doctrine américaine sur toute une série de problématiques, et qu'on retrouve au conseil d'administration de ce groupe de presse, Caspar Weinberger, qui a été secrétaire à la défense sous l'administration de Reagan, qui a été lui aussi administrateur de Bechtel. On retrouve également George Shultz, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, donc je ne reviens plus dessus. Alors, quelques noms encore de personnalités qui sont donc administrateurs du PNAC, avant d'en venir à ceux qui, sans être administrateurs mais directeurs au quotidien, ont signé de nombreux rapports ou de nombreuses lettres produites par le PNAC. Il y a Zalmay Khalidzad, qui a été nommé par le président Bush ambassadeur des États-Unis, comme par hasard, en Afghanistan dès 2003, et qui était un ancien analyste de la firme pétrolière Unocal, firme dont on a beaucoup parlé pour son implication précisément dans cette guerre, cette intervention militaire en Afghanistan. Évidemment, Paul Wolfowitz, actuel secrétaire adjoint à la Défense, qui a été consultant pour Northrop Grumman, l'une des 4 grandes compagnies de l'industrie de la Défense aux États-Unis. Lewis Leiby, qui a été directeur du cabinet du vice-président Dick Cheney et qui a été lui aussi conseiller de Northrop Grumman. Je cite également le nom de Dan Quayle, qui a été vice-président des États-Unis entre 1989 et 1993, et qui est aujourd'hui notamment administrateur de Amtrak Technology et de Behavioral Tech Computer, donc de l'électronique, qui sont actifs notamment dans l'électronique de la défense. Et enfin, dernière personnalité particulièrement influente comme administrateur du PNAC, évidemment, Donald Rumsfeld, qui a été président de General Instruments, compagnie de l'électronique, actif à nouveau dans l'électronique de la défense. Il a été administrateur de Gulfstream Aerospace, compagnie aéronautique, comme le nom l'indique. Administrateur de RAND Corporation, qui est d'une organisation qui a notamment pour but de produire des rapports sur la politique étrangère, sur la question de l'économie de la défense. Et enfin, il a été administrateur également de compagnies du complexe pharmacochimique qui joue aussi un rôle certes moindre, mais quand même relativement important aujourd'hui dans les questions touchant au bioterrorisme et aux interventions militaires. Alors, il faut savoir que, à côté de ces administrateurs du PNAC, si l'on s'en tient ces administrateurs, cela fait déjà, vous en conviendrez, pas mal de liens avec l'industrie de la défense et l'industrie pétrolière, mais il est aussi intéressant, si pas plus intéressant, pardon, de profiler précisément quelques figures qui, sans être administrateurs du PNAC, ont signé de nombreuses lettres ou rapports de ce think tank néoconservateur. Il y a James Woolsey, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a été directeur de la CIA entre 1993 et 1995, qui siège aujourd'hui au conseil d'administration de, ou qui a siégé au conseil d'administration de nombreuses compagnies de l'industrie de l'armement. Je citerai parmi les plus influentes British Aerospace, évidemment, premier industriel de l'armement en Grande-Bretagne et l'un des plus influents en Europe. Après James Woolsey, une personne dont on a aussi parlé un petit peu dans la presse, Frank Carlucci, qui a été secrétaire à la défense sous l'administration Reagan et qui est aujourd'hui président honoraire du Carlyle Group. Qu'est-ce que c'est le Carlyle Group? Alors, le Carlyle Group, c'est cette société financière qui prend depuis de nombreuses années des participations, principalement dans l'industrie des médias, dans l'industrie des télécommunications et de l'électronique, et puis dans l'industrie un peu du pétrole et aussi dans l'industrie de la défense au sens le plus strict du terme. Frank Carlucci est aussi président honoraire de Nortel Networks, compagnie de télécommunications, sous-secteur évidemment un rôle important dans le complexe militaro-industriel, et puis il a été administrateur de toute une série de compagnies du complexe pharmacochimique comme Pharmacia Corporation avec Donald Rumsfeld. Alors, petite parenthèse pour faire une pause après cette longue liste de liens, et avant malheureusement ou heureusement de la continuer, pour préciser que il y a précisément de ces liens qui sont particulièrement significatifs pour expliquer certaines interventions dans la presse en Europe de personnalités qui, belges par exemple, ont pris, sinon faveur, ont été favorables à la guerre, mais qui en tout cas ont tenté, par rapport à la ligne des diplomaties comme celle de Dominique de Villepin, d'avoir un regard peut-être plus nuancé et finalement de dire, peut-être que ce n'est pas la bonne solution, peut-être qu'ils n'y se sont pas bien pris, peut-être qu'ils n'ont pas les bons arguments, peut-être qu'ils n'arrivent pas à convaincre les opinions publiques, l'opinion publique européenne peut-être d'abord et avant tout, mais il semble qu'il faut maintenir ce lien transatlantique, il faut quand même les soutenir dans cette intervention. Alors là, je parle d'une personnalité que certains d'entre vous, je pense que tout le monde doit connaître, qui est le vicomte Étienne d'Avignon. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Il vient faire là-dedans tout simplement qu'il a signé une carte blanche avec Franck Ladouze dans Le Soir, journal de référence en Belgique francophone, dans lequel précisément donc il faisait cette analyse en disant c'est vrai que faut peut-être pas soutenir unilatéralement cette guerre, mais il faut renforcer les liens, il faut les comprendre, etc. Il faut participer sinon à l'intervention, à la reconstruction, etc. Il faut savoir que Étienne d'Avignon est membre du comité consultatif international de Carlyle Group. Avec Karl Topol, qui est l'ancien patron de la Bundesbank, si je ne me trompe. On retrouve aussi à ce comité consultatif du Carlyle Group Javier Pérez de Cuellar et toute une série de personnalités politiques européennes, asiatiques ou latino-américaines particulièrement influentes. Ceci pour dire que le regard critique que l'on jette aujourd'hui sur cette intervention militaire et sur le PNAC ne nous exonère pas évidemment de réflexion critique sur nos propres gouvernements et nos propres élites. J'en reviens avec donc encore quelques personnalités qui ont signé donc des lettres du PNAC. Dov Zakem, sous-secrétaire à la Défense, chargé notamment du contrôle, et directeur financier du département de la Défense depuis 2001, qui a été membre du comité consultatif de Northrop Grumman et consultant de McDonnell Douglas. Robert Zulik, représentant au commerce des États-Unis, qui a été consultant d'Enron, on en a parlé tout à l'heure. Colin Powell, qui après l'opération Tempête du désert, la première guerre en Irak, deviendra notamment administrateur lui aussi d'un industriel de la défense, à savoir Gulfstream Aerospace. Condoleezza Rice, conseillère à la sécurité nationale, ancienne administratrice de Chevron. Andrew Carte, chef de cabinet du président George Bush, qui a été vice-président exécutif de General Motors. General Motors, ce n'est pas que des Opel, c'est aussi l'industrie de la défense. Donald Evans, secrétaire au commerce, qui est depuis plusieurs années l'un des plus généreux bailleurs de fonds des campagnes électorales de la famille Bush, qui a été fondateur et président de Tom Brown Incorporated, une compagnie active dans le secteur de l'exploration, du développement et de la production de gaz naturel et de pétrole brut. Kathleen Cooper, sous-secrétaire au commerce, ancienne chef économiste pour ExxonMobil. Norman Mineta, secrétaire au transport, poste stratégique pour quelqu'un qui a été vice-président exécutif à nouveau de Lockheed Martin entre 1995 et 2000. Francis Blake, sous-secrétaire à l'énergie, qui a été vice-président de General Electric. Robert Carte, sous-secrétaire lui aussi à l'énergie, qui a été président de nombreuses compagnies pétrolières. Douglas Face, sous-secrétaire à la défense, lui aussi, en charge de la politique étrangère, qui a été avocat de Northrop Grumman. Et puis, deux nominations récentes, que j'ai ajouté à cette longue liste. Edward Aldrich, qui a été sous-secrétaire à la Défense en charge des acquisitions jusque juin 2003, qui est aujourd'hui actuellement assistant spécial du secrétaire à la Défense depuis mai 2003, poste qu'il a donc conservé, et qui est entre-temps devenu administrateur de Lockheed Martin. Il a été également président de McDonnell Douglas Electronics. Et enfin, Joseph Ralston, qui a été commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe de mai 2000 à janvier 2003, et qui, comme nombreux de ses collègues, aujourd'hui est administrateur de Lockheed Martin. Voilà. Donc, il me semble qu'on a pu établir assez clairement le nombre particulièrement impressionnant de liens qui unissent la famille républicaine, l'administration Bush, plus précisément encore le PNAC, avec le complexe militaro-industriel et plus particulièrement l'industrie pétro-énergétique et l'industrie de la défense, l'industrie de l'armement au sens le plus traditionnel du terme. Je terminerai par deux réflexions. À nouveau, je le répète, il me semble important de dire que l'attention qu'on accorde aujourd'hui à cette intervention militaire en Irak et à The Think Tanks néoconservateurs, le PNAC, ne nous exonère pas de réflexion plus large d'abord sur les liens qu'entretiennent globalement l'actuelle administration avec le monde des affaires aux États-Unis et plus globalement les liens que toutes les administrations qui se sont succédées aux États-Unis ont entretenu et entretiennent encore avec le monde des affaires et avec le complexe militaro-industriel. Je donne deux exemples. Celui de William Perry, qui a été secrétaire à la défense démocrate de 94 à 97, et administrateur aujourd'hui de United Technologies et de Boeing, celui de Bill Richardson, qui a été secrétaire à l'énergie démocrate de 98 à 2001, ancien président d'une compagnie de lobbying, notamment pour des compagnies pétrolières, ou encore celui de Togo, D. West, qui a été secrétaire aux vétérans de 1998 à 2001, et qui a lui été lui aussi, pardon, ancien vice-président de Northrop Corporation. Ça ne veut pas dire que tout se vaut. Ça veut dire que les liens entre État et capital, les liens entre les administrations démocrates et républicaines n'ont jamais cessé au cours de l'histoire de se tisser. Que ces liens expliquent aussi les interventions démocrates et particulièrement meurtrières, par exemple en Yougoslavie. Ceci étant, il faut reconnaître malgré tout qu'avec l'actuelle administration Bush et avec le PNAC, on passe véritablement à un saut à la fois quantitatif et qualitatif dans les liens étroits que les personnalités les plus influentes au niveau du gouvernement entretiennent avec les principales compagnies pétrolières. Et enfin, je terminerai à nouveau par une petite remarque, un petit peu morale, mais pas trop, pour préciser tout simplement que, à nouveau, si, comme un éditorialiste du Wall Street Journal, si je ne me trompe, l'avait dit, McDonald's aura toujours besoin de McDonnell Douglas, il ne faut pas oublier que Danone aura toujours besoin lui aussi de Dassault. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette intervention. Non, je demande au public de ne pas applaudir. Merci beaucoup.